Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h, nous sommes le mardi 5 mai. On va bien sûr revenir sur les prix des carburants et sur la guerre en Iran ce matin. L'État a donc récupéré plus de 190 millions d'euros supplémentaires, c'est ce qu'a confirmé Sébastien Lecornu hier soir. Une cagnotte fiscale qui servira intégralement à financer les aides aux carburants. Toutes les informations et vos réactions bien sûr, je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Faut-il craindre une reprise des combats au Moyen-Orient? C'est à nouveau l'escalade. L'Iran a frappé hier des infrastructures aux Émirats Arabes Unis. Mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis qui s'apprêtent à riposter? Les dernières informations et les réponses sur RMC donc ce matin. Et puis dans 10 minutes, l'ancien coureur cycliste Richard Virenque sera en direct avec nous pour commenter l'annonce qu'on espérait tous. La nouvelle pépite du cyclisme français, Paul Sexas, participera bien au Tour de France cet été. De quoi peut-on rêver pour le coureur qui n'a que 19 ans? Il peut viser le podium. Voilà ce que prédit Richard Virenque. C'est ton parti pris. Son parti pris, ce sera donc à 7h10 sur RMC. Et puis, vous aviez peut-être entendu en direct hier, Christophe, auditeur dans l'Aube. Eh bien, il était en direct avec nous à 8h20 et il a gagné ce séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, parce que toute la semaine, on vous offre vos vacances. On va continuer à jouer ensemble, donc restez bien à l'écoute. Il y aura un nouveau gagnant en direct d'ici 9h. Il est 7h et il pleut, Géraldine.
Oui, il pleut et il pleut beaucoup même, puisqu'on est carrément en vigilance orange sur la Mayenne et la Sarthe. Pour ces fortes pluies, on attend 3 à 4 semaines de pluie d'ici la fin de la journée. Donc des pluies conséquentes qui ne vont pas toucher d'ailleurs que les Pays de la Loire. Ça concerne aussi la Bretagne, le centre, l'Île-de-France, jusqu'au Massif central ce matin, plutôt jusqu'aux Ardennes pour cet après-midi. Donc des pluies qui vont être soutenues. Sur les autres régions, on va avoir des averses orageuses. Alors c'est retour au calme. En revanche, sur le Languedoc, ça va faire du bien. Retour des éclaircies, puisque là, il y a eu de fortes pluies hier. Température qui baisse encore, ça reste relativement doux ce matin, 10-15 degrés en général. Cet après-midi, on sera sous les normales de saison avec 15 degrés pour Paris, Lille, 17 à Bordeaux, 19 à Lyon, 20 à Marseille, jusqu'à 22 degrés en Corse.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Excellent réveil à tous, 7 heures passées de 1 minute. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Bataille navale dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont escorté les premiers cargos bloqués. L'Iran a ouvert le feu sur les navires américains, mais aussi sur certains sites pétroliers de ses voisins. On fait le point dans un instant. 190 millions d'euros, c'est donc le montant qu'a rapporté la flambée des carburants à l'État, qui jure par la voix de Sébastien Lecornu de tout redistribuer via des aides. Et puis le tube de l'été, enfin annoncé, le jeune Paul Sexas a officialisé sa présence sur le Tour de France.
Des dizaines de missiles au-dessus du détroit d'Ormuz ces dernières heures.
Dès le début de la mission d'escorte américaine de cargo bloqué hier, l'Iran a ciblé les navires de Washington qui ont, eux, détruit des embarcations iraniennes. Le regain de tension s'étend même aux Émirats Arabes Unis. Attaque dénoncée par Emmanuel Macron qui appelle au calme. Romain Houg, la bataille navale semble bel et bien lancée.
6 petits bateaux militaires iraniens et avoir permis la traversée de 2 cargos américains dans le détroit d'Ormuz, annonce démentie par Téhéran qui a de son côté lancé des attaques de drones contre les Émirats Arabes Unis, provoquant l'incendie d'un important port pétrolier. Reprise des hostilités donc dans le Golfe, même certains navires commerciaux en auraient fait les frais. Plusieurs ont signalé des incendies et explosions à bord. De Keir Starmer au Royaume-Uni à Emmanuel Macron, les dirigeants européens condamnent ce regain de tension, car tout cela vient franchement faire vaciller la trêve décrétée il y a près d'un mois entre l'Iran et les États-Unis, d'autant que les négociations patinent depuis plus de 3 semaines. Et puis, la conséquence directe, c'est le cours du baril qui s'envole à nouveau et s'établit ce matin autour des 113 dollars.
Et pas de quoi faire redescendre chez nous les prix des carburants qui remplissent les caisses de l'État. Aveu du Premier ministre hier, oui, il y a un surplus fiscal ces 2 derniers mois. Et Célestin Bougère, le chef de Matignon, promet d'une part de jouer la transparence en publiant les recettes tous les 10 jours, et d'autre part de redistribuer chaque euro gagné.
Sébastien Lecornu le concède, les recettes de l'État liées à la TVA augmentent largement grâce au prix élevé à la pompe et font plus que compenser une baisse de consommation globale des Français. 190 millions d'euros de recettes supplémentaires en mars et en avril par rapport à l'année dernière qui ne seront pas conservées par l'État, promet le Premier ministre. Ils financeront le chèque pour les grands rouleurs et les aides ciblées pour les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs. Au total, l'État doit sortir 380 millions d'euros de ses caisses, d'après Sébastien Lecornu, bien plus que ses recettes supplémentaires liées au carburant, un devoir de transparence dans un contexte social explosif, d'après le politologue Benjamin Morel.
C'est la communication politique, ça permet de désamorcer un certain nombre de critiques, mais ça ne règle pas les problèmes profonds. Ça ne retarde pas la cocotte minute sociale, simplement ça donne le sentiment d'avoir géré les choses au bon moment et à l'instant T. Ça calme pas la colère, mais ça évite de l'amplifier par votre propre comportement.
Le politologue y voit aussi un moyen pour le Premier ministre de déjà préparer l'opinion publique au débat sur le budget, qui risque d'être compliqué à l'automne prochain.
Et dans ce contexte, celle qui tire son épingle du jeu, c'est la SNCF, surtout avec les trains régionaux. C'est un chiffre que vous dévoile RMC ce matin. Les ventes de billets TER ont bondi de 12% le mois dernier par rapport à avril 2025. Confinés sur leur bateau et même dans leur cabine, les 149 passagers d'une croisière ont été interdits d'accoster au Cap-Vert. Hier, les autorités craignent cet antivirus qui a déjà tué 3 personnes à bord. Il est 7h04 sur RMC et ce jouet français emblématique était en fait fabriqué en Chine. Vous vous souvenez sûrement de Sophie, cette girafe en caoutchouc. Eh bien, l'entreprise Vully qui la fabrique a été contrainte de reconnaître la supercherie. Derrière le Made in France, fièrement affiché, se cachait en fait une production délocalisée en Chine. Ça dure depuis au moins 2013, selon une enquête de Mediapart. Et la répression des fraudes s'est saisie de l'enquête, Victor Joannin.
Oui, le fabricant pourrait être condamné à une amende salée jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires pour avoir fait croire aux consommateurs que la fabrication de Sophie la girafe était française. C'est ce qui était marqué jusqu'à récemment sur l'emballage et c'est d'ailleurs toujours indiqué sur le site de e-commerce Amazon, alors même que le jouet mythique en plastique est importé de Chine, puis peint et conditionné en France. Le fabricant, qui n'a pas répondu aux sollicitations d'RMC, reconnaît faire appel à des sous-traitants chinois, mais il assure qu'il n'a rien caché et qu'il rapatriera la production quand la nouvelle usine dans les Vosges sera opérationnelle. Une situation qui dure depuis au moins 12 ans, selon l'enquête de Mediapart. L'usine historique de Rumilly, en Haute-Savoie, servirait seulement de vitrine, avec un atelier réactivé uniquement en cas de visite extérieure ou lors des contrôles.
Victor Joannin pour RMC. Début du premier procès d'une affaire tentaculaire, les violences sexuelles dans le milieu périscolaire parisien. Un animateur face à la justice dès aujourd'hui. La mère d'une des 9 petites filles qui l'accuse témoigne sur RMC, vous l'entendrez dans le journal de 8h. S'agit-il d'une tentative d'intimidation à Besançon? Hier matin, les élèves d'un collège ont vu par la fenêtre la voiture d'une surveillante s'embraser. Acte volontaire, c'est la piste principale. Le personnel a exercé son droit de retrait. Hier, les cours doivent reprendre ce matin dans une ambiance pesante, Antonin Audion.
L'incendie a laissé des traces, comme l'explique Stéphane Fauconnier, professeur de SVT et collègue de la surveillante dont la voiture a été incendiée.
Elle a été choquée, évidemment. On a considéré que c'était un danger grave et imminent. En soutien avec la collègue surveillante.
L'enquête ouverte par le parquet de Besançon doit déterminer si cette surveillante de 25 ans a été visée dans le cadre de son travail.
C'est une surveillante qui est plus particulièrement chargée de prendre les élèves qui sont, par exemple, exclus de cours ou qui sont punis, sanctionnés, et c'est elle qui les gère. Cette année, on en doit être au 14e ou 15e conseil de discipline. Je crois que c'est la première année où on a quand même des conseils de discipline en 6e.
Ce matin, un temps d'échange est prévu avec les élèves du collège.
Le principal qui va recevoir chaque niveau de classe pour d'une part rassurer certains élèves et puis aussi redire un certain nombre de règles.
L'inspecteur d'académie ainsi que la directrice de cabinet du préfet du Doubs vont également rencontrer les représentants du personnel dans la matinée.
Antonin Audion pour RMC. Le foot et cette première demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. 21h, Arsenal reçoit l'Atlético Madrid après le match nul un partout au match aller. Ce sera à suivre sur RMC avant demain, vous le savez, la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et puis ça y est, c'est officiel depuis hier. Paul Sexas va s'attaquer cet été au Tour de France. La pépite française de 19 ans, celui que tous les fans de vélo rêvent, voire annonce en jaune un jour, Julien Richard.
Oui, quand il a appris la nouvelle.
Ah, il le fait.
Marc Pacheco, premier entraîneur de Paul Sexas au Lyon Sprint Club, n'a pas vraiment été surpris.
On est fiers. Et contrairement aux critiques, il est trop jeune, etc. Non, moi je dis, si jamais il gagne pas le tour, bien qu'il va y aller dans sa tête pour le gagner, connaissant le phénomène, il sera pardonné.
Sur le circuit cycliste parisien de Longchamp, les amateurs en salivent d'avance.
Ah bah c'est une très bonne nouvelle, ça va être un très beau spectacle.
Excitant forcément, c'est toujours excitant de voir un jeune de 19 ans comme ça, qui a la hargne, qui a envie d'aller chercher des résultats, qui a pas peur de se confronter aux meilleurs.
Tous n'attendent qu'une chose.
Bouger Pogacar.
Ah moi j'espère qu'il sera sur le podium.
Ah on peut pas se mentir, on attend une victoire. Hein. Si on peut aller voir un Paul Sexas en jaune à 19 ans, ça serait magique.
Dans son maillot orange, Régis est plus mitigé.
Trop jeune, ouais. Le Tour de France c'est une lessiveuse, c'est 3 semaines non-stop. Stop à fond tous les jours, il est trop jeune pour faire ça.
Charles, en tout cas, c'est sûr, sera au bord de la route cet été et il ne sera pas seul.
J'ai hâte de voir ce qu'il va donner et qu'il nous rende fiers. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et que ça va être l'occasion pour lui de voir qu'il y a toute une nation derrière lui.
Paul Sexas, très attendu sur la ligne de départ à Barcelone le 4 juillet prochain.
Et notez hein, ce rendez-vous, ce sera évidemment à suivre sur RMC.
C'était le journal de Victor Pourchet. Et justement, vous parliez de Paul Sexas, cette pépite française du cyclisme, donc à seulement 19 ans. On a appris hier donc que le coureur français serait bien au départ du Tour de France en juillet prochain. Richard Viran qui est en direct avec nous, bonjour. Faut-il encore vous bonjour. Présenter? Vous avez participé à 12 Tours de France, vous avez gagné 7 étapes. Et pour vous, Paul Sexas a bien le niveau pour faire un grand tour. Vous allez nous dire ce que vous en espérez et on va commencer à rêver avec vous. C'est votre parti pris, Richard Virenque, avec nous donc dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Et cette annonce dans une vidéo avec ses grands-parents, Paul Sexas, qui a donc confirmé qu'il serait bien au départ du Tour de France en juillet prochain avec son équipe, l'équipe Décathlon CMA-CGM, qui est d'ailleurs aussi propriétaire d'RMC. Bonjour Richard Virenque, merci d'être en direct avec nous, ancien grimpeur, 12 participations au Tour de France, 7 victoires d'étape, 7 maillots à pois remportés. Paul Sexas, est-ce qu'il a le niveau? Oui, c'est votre parti pris, même à 19 ans?
Oui, écoutez, ce qu'il nous a fait depuis le début de saison, oui, bien sûr, il a le niveau pour participer au Tour. Le week-end dernier, il était quand même à la Flèche Wallonne, à Liège-Bastogne-Liège plutôt, et il a fait deuxième derrière Pogacar. Ça a été le seul coureur qui a pu le suivre dans la redoute. Il a gagné la Flèche Wallonne. Il a gagné le Tour du Pays Basque, qui est une course à étapes d'une semaine difficile. Donc, pour vous dire que oui, il a la capacité d'être au Tour sans problème. Après, le Tour, il faut qu'il y aille pour se faire plaisir. C'est un tout jeune, donc il va apprendre. Le Tour, c'est une lessiveuse, c'est une course particulière. C'est la course la plus dure, la plus stressante, et où il y a le plus de public. Donc, il va y avoir une grosse pression. Donc, moi, je pense que sur le Tour, il faut qu'il y aille sport plaisir.
J'aime beaucoup cette idée, y aller pour le plaisir. Est-ce qu'on peut vraiment y aller uniquement pour le plaisir? Alors, après, il a cette fraîcheur. C'est extraordinaire. Même quand on entend son message hier, on sent effectivement une gourmandise. Il y a encore une gourmandise.
Oui, c'est sûr que quand on dit avec le plaisir, vu les dangers du Tour et le stress du Tour, c'est facile de dire avec le plaisir. Mais il faut pas qu'il se mette la pression, se dire bon, je viens sur le Tour pour faire un podium, je viens sur le Tour pour gagner le Tour. Là, ça serait à mon sens une erreur. Il vient sur le Tour pour apprendre et forcément avec la forme qu'il a, il va emporter une étape. Peut-être il va aller jouer le maillot à pois. Il va se jauger l'avantage. Il faut qu'il finisse le Tour. Pourquoi? Parce que quand on finit le Tour, on prend de la caisse. Donc on progresse encore. Donc l'objectif pour son équipe, pour lui, eh ben il faut qu'il aille au Tour. Il va ravir les Français parce que tout le monde attend un Français pouvoir éventuellement gagner le Tour. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais en tout cas, c'est une très bonne chose qu'il prenne le départ et va nous faire du bien sur le Tour. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est à l'offensive, qui attaque assez souvent. Il va devoir un peu plus calculer parce que le Tour est long, 3 semaines de course.
3 semaines, donc, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire cette endurance. En fait, on a presque l'impression quand on vous écoute, Richard Virenque, que vous vous dites, au fond, ça va aussi le faire mûrir. Il est prêt, de toute façon, et pourquoi pas, il y aura peut-être des étapes, il y aura peut-être des maillots. Mais quoi qu'il arrive, ça va en plus l'emmener plus loin.
Oui, exactement. Il fera des erreurs tactiques parce que il est jeune encore.
Et on lui pardonnera,
bien sûr. Moi, je revois très bien ma participation il y a 24 ans au Tour de France en 92. J'avais 21 ans. J'étais le plus jeune du Tour à l'époque. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compté mes efforts. La deuxième étape, je me suis échappé. J'ai fait 250 km d'échappée. J'ai pris le maillot jaune. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert le tour. Et après, j'ai jamais abandonné le tour. Au contraire, le tour m'a grandi et je me suis servi de ça dans ma carrière. Donc, pour Paul Sexa, je pense que le tour va lui faire un grand bien. Il va lui apprendre plein de choses parce que c'est la mecque du vélo. C'est la course la plus difficile et il va prendre de la caisse et on va voir qu'est-ce que vaut Paul Sexa.
Exactement, il va pouvoir se tester en quelque sorte. Richard, viens rester avec nous parce que je voudrais aussi que vous puissiez dialoguer avec Yannick et Sylvain qui nous ont appelé au 32-16. Alors Yannick, je crois que vous êtes grosso modo d'accord avec Richard, viens, que vous prenez ça aussi comme une magnifique nouvelle. Pour vous, Sylvain, il y a plus de crainte. J'ai l'impression, Sylvain, vous nous appelez de Gironde, moniteur de conduite. Vous redoutez qu'il se grille, que ce soit trop tôt?
Non, je ne redoute pas qu'il se grille. Je dis, à 19 ans, il a raison de participer au Tour de France. Et je rejoins totalement Richard et je suis extrêmement ravi de pouvoir lui parler parce que je suis un plus grand fan. Mais après, voilà, il a 19 ans, il a le temps de faire son parcours. Moi, je dis, sur le podium, il y sera, quoi qu'il en soit, il sera le meilleur jeune, ça c'est sûr. Mais maintenant, voilà, qu'il se grille pas parce que voilà, il a le temps, il a 19 ans, il a encore toute sa carrière devant lui. Qui prennent l'expérience avec des grands coureurs comme Pogacar, comme Vingegaard. Il a déjà eu Pogacar à la Flèche Wallonne. Liège-Bastogne, pardon. Et après, derrière, voilà. Mais qu'il fasse attention quand même. Il a le temps. Qu'il ne se grille pas.
Qu'il fasse attention. Vous entendez ça, Richard Virenque?
Oui, mais vous savez, le problème, ce n'est pas cette année. Hein. Cette année, ça va être facile pour lui. Le problème dans une carrière d'un coureur professionnel, c'est de rééditer les efforts et de refaire des sacrifices et d'être là présent chaque année. Vous savez, quand vous avez le frigo bien plein et que vous rentrez dans la notoriété, tout change. Et c'est là où l'entourage est très important et la force de caractère est très importante. Et c'est là qu'on forge un champion. Donc forcément, il va rentrer dans le grand bain cette année au Tour de France. Il va nous faire des exploits, ça c'est certain. Et pour pas qu'il se grille, c'est son entourage, c'est lui, c'est mentalement. Il va falloir qu'il se ressource, qu'il prenne du recul sur plein de choses. Parce que quand on a la célébrité, quand on est invité partout, quand on gagne beaucoup plus d'argent, du jour au lendemain, on a moins faim. Et c'est là, il va falloir, pour Paul Sexas, son entourage ou lui-même personnellement va se remettre à travailler et va remettre tout de côté pour pouvoir être encore le meilleur.
Pour continuer à avoir cette énergie, cette envie, Yannick, c'est vraiment une très très belle nouvelle à vos yeux. Vous nous appelez des Pyrénées-Orientales, je précise que vous êtes maçon à Perpignan.
Ah oui, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Par contre, j'ai quelques désaccords. Moi, je veux pas qu'il y aille juste pour se faire plaisir. Déjà mentalement, il ira pas de lui-même pour se faire plaisir. Déjà, un jeune ne va pas dans une grande compétition comme ça pour se faire plaisir.
Il veut pas être juste au bord de la photo, quoi. Il voudrait être.
Non. Et moi, par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle d'âge. Mais déjà, moi, quand je l'ai entendu à plusieurs interviews, il est déjà très mature. Et comme dit une très grande star, on ne parle pas d'âge. Donc, pour moi, l'âge n'a rien à voir.
L'âge, peut-être pas, mais le fait que ce soit sa première. D'ailleurs, Richard Virenque, je voudrais encore vous poser deux questions. L'une, quand même, sur, évidemment, le duel. Vous avez parlé de Pogacar. Ce duel au sommet, est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce que c'est ça aussi qu'on va attendre?
Il n'y a pas que Pogacar. Hein. Le tour, il va falloir être prudent avec les chutes, tout ce qu'il y a autour. Il y a Vingegaard qui est là. Il y a Rinko qui est là aussi. Non, il y a beaucoup d'autres coureurs. Je pense qu'il va devoir se jauger lui-même, faire... Il y a des pièges la première semaine, attention aux pièges. Donc de stress, tout le monde veut aller devant.
Est-ce que le stress, ça peut être aussi la pression quand même? La France va être derrière lui, évidemment, avec passion, avec enthousiasme, mais avec aussi l'idée que, en fait, depuis 85, depuis Bernard Hinault, il n'y a pas eu un Français qui a vraiment remporté le Tour de France. Est-ce que ça, c'est une pression très lourde sur les épaules?
Bon, je pense qu'il va pas trop y penser de ce stress-là. Il va faire la course pour essayer de gagner une étape. Il va faire la course pour essayer de bien s'en sortir. quand je voulais parler dans le plaisir, c'est pas d'arriver et de faire des photos à tout le monde et d'être dans le plaisir. Le plaisir, c'est faire sport plaisir, c'est-à-dire d'attaquer, de se faire plaisir et de faire des résultats, mais sans se mettre la grosse pression. Oui. Quand on vient sur un tour gagner le tour, c'est une grosse pression, c'est-à-dire on est au millimètre de partout.
Donc il peut y aller là, progressivement.
C'est ça, progressivement apprendre. Il a le temps d'apprendre et il a 19 ans et il en sortira grandi de ce Tour de France, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Richard Vianque d'avoir été en direct avec nous ce matin, évidemment ancien coureur cycliste. Merci aussi à Yannick et Sylvain pour leur témoignage, leur réaction. Le Tour de France, ce sera le coup d'envoi, départ depuis Barcelone le 4 juillet prochain, et c'est un événement évidemment à suivre en intégralité sur RMC. Il est 7h21, pendant ce temps-là l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, faut-il afficher le portrait du chef de l'État dans les mairies? Le débat est relancé. À quand remonte cette tradition?
Eh bien, c'est pas si vieux, ça date du 19e siècle et c'est un roi qui va avoir cette idée pour montrer que l'État règne partout.
Vous nous le dites dans un instant, notez qu'à 8h30, mon invité ce sera Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient, pour essayer de comprendre cette nouvelle escalade à nouveau autour du détroit d'Ormuz. Notez également que comme chaque matin à 8h50, Nicolas Canteloup sera en direct avec nous sur RMC. Ne bougez pas, on se retrouve dans moins d'une minute, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et comme chaque matin, c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, le nouveau maire LFI de Saint-Denis a décidé de décrocher le portrait du président de la République depuis son bureau à la mairie. Bali Bagayoko affirme qu'il a mis ce portrait dans un coin de son bureau.
Oui, et il se justifie en disant que ça n'est pas un manquement républicain puisque d'après lui, je cite, « le manquement républicain est du côté de l'État qui ne corrige pas les inégalités ».
Est-ce que c'est obligatoire d'afficher le portrait du président dans une mairie ?
La réponse est claire, Apolline, c'est non. Hein. Une loi de 2023 l'avait envisagée, mais elle n'est jamais entrée en vigueur puisqu'en fait, elle n'a jamais été examinée par les sénateurs. En soi, rien de répréhensible dans ce que fait le maire de Saint-Denis. Mettre le portrait du président en mairie, ça relève de la tradition plutôt que de l'obligation. Mais il faut bien admettre que ce que fait Bali Bagayoko est quand même très rare.
Cette tradition, elle vient d'où ?
Alors, ça commence au 19e siècle, donc après la Révolution française. Le premier chef d'État à mettre des bustes et des portraits de lui dans les mairies, dans les préfectures, c'est un roi qui s'appelait Louis-Philippe. Il a régné de 1830 à 1848. Mais alors attention, pour comprendre cette affaire, il y a une chose importante à retenir. Ces bustes, ces portraits, ça n'est pas un culte de la personnalité, du moins pas à cette époque. L'objectif, c'était de montrer que le roi contrôlait le fonctionnement des institutions. Quand son portrait était dans une mairie, ça voulait dire que symboliquement, le chef de l'État surveiller ce qu'il se passait en quelque sorte, donc c'était plutôt vertueux, et c'est exactement ce qu'on va reproduire en République.
Quand on commence à avoir des présidents de la République, qu'est-ce qui change ?
Alors, notre premier président de la République, élu au suffrage universel, s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, c'était en 1848. Alors là, on fait très attention à ne mettre son portrait nulle part, pour montrer qu'un président, c'est une personne comme tout le monde. Sauf que ce président va devenir empereur sous le titre de Napoléon III et lui va être le premier chef d'État à réaliser un portrait photographique officiel. L'usage, ça sera de mettre la photo dans les mairies et lieux publics, mais là encore, aucune obligation.
Et quand la République revient, on garde cette pratique ?
Exactement, on garde la pratique. Au début des années 1870, c'est les débuts de la Troisième République. Et le premier président de cette Troisième République, il s'appelait Adolphe Thiers. Une des premières choses qu'il va faire, eh ben c'est un portrait officiel, portrait où il est en costume avec la main posée sur un livre. D'ailleurs, le livre, ça va devenir un incontournable des portraits officiels. On met sa photo dans les mairies, les préfectures, les bâtiments publics, mais là encore, rien d'obligatoire, c'est un rituel républicain.
En fait, ça n'a jamais été obligatoire de mettre la photo du président dans les mairies.
Alors en fait, ça a été obligatoire une seule fois, et franchement, c'était pas l'époque la plus glorieuse de la France, puisque c'était pendant l'occupation, en 1940, le chef d'État français, c'est le maréchal Pétain, une loi va imposer, là c'est obligatoire, son portrait dans toutes les mairies et tous les bâtiments publics. C'était un véritable culte de la personnalité. Je précise que le régime de Vichy n'était pas une république, c'était un régime autoritaire. Bref, depuis, tout ça ne s'est jamais reproduit.
Merci beaucoup Arthur, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h26, Arnaud Demanche a pris quelques jours de vacances, mais vous le retrouverez lundi en pleine forme, et à 8h15, on en garde le meilleur. Vous l'entendrez évidemment, notre cher Arnaud Demanche, et on l'embrasse. Il est 7h26 et on vous offre vos vacances, vous le savez, toute la semaine et depuis hier, on vous offre vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous jouez pour remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bélan. Cambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Et Bellambra s'occupe des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris
prévu. Et des enfants.
Et des enfants surtout. Ça, j'avoue que ça nous fait beaucoup rêver avec Mathieu. Allez, pour remporter vos vacances, Bellambra, c'est maintenant. Vous envoyez vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Et le gagnant sera en direct avec moi avant 9h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après, on va revenir évidemment sur cette cagnotte avec la hausse des prix des carburants. L'État dit avoir récupéré plus de 190 millions d'euros supplémentaires. Une somme qui servira intégralement à financer les aides annoncées par le gouvernement. Ça vous fait réagir. On en parle non seulement avec vous, mais aussi avec une économiste et puis le représentant de l'association 40 millions d'automobilistes. Il sera avec nous à 7h40 dans ce studio. À 7h50, la voix de gauche, comme chaque mardi sur AMC, Cécile Duflo, elle reviendra sur l'incroyable succès de la fraise française, la première et la preuve que notre pays sait produire et lutter contre la concurrence étrangère. J'ai mangé mes premières fraises de la saison hier et effectivement elles sont délicieuses, les fraises françaises. Oui. 7h28. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. RMC vous le dévoile en exclusivité ce matin. Le Haut Commissariat au Plan veut inciter les pères à prendre leur congé naissance et il propose même une carotte. Les caisses de l'État qui se remplissent grâce à la hausse des prix des carburants, plus 190 millions de recettes. Sébastien Lecornu promet transparence et redistribution. À l'approche des examens de fin d'année, ils sont 38% à avouer se doper pour tenir le coup. RMC à rencontrer des étudiants.
RMC vous le révèle donc ce matin, le Haut Commissariat au Plan veut inciter les pères à prendre les congés naissance auxquels ils ont droit.
Aujourd'hui, ils sont 40% à ne pas prendre la totalité des jours dont ils disposent pour s'occuper de leur nouveau-né. Dans une note qu'RMC a donc pu consulter et vous dévoile en exclusivité ce matin, le Haut Commissariat propose d'aller encore plus loin que le congé naissance de 2 mois qui doit entrer en vigueur en juillet, avec un 3e mois à condition que le papa ait bien posé tous ses jours. Une rallonge sous condition qui divise les parents que vous avez rencontrés pour RMC, Pierre Bourgès.
Quand leur fille est née il y a un peu moins d'1 an, Axel n'a pas pu prendre son congé paternité immédiatement. La raison, l'expert comptable ne pouvait pas, selon lui, laisser ses collègues seuls.
Sans dire que ça s'est imposé à elle, je cru que c'était naturel.
Elle m'a dit, c'est le deuxième, tu sais faire. T'as pas besoin de moi, donc j'ai su faire.
Mais pour sa femme Amandine, il ne faut pas que cette incitation se transforme en pression sur les pères.
Sur le papier, c'est sympa. Après, je pense que ça peut créer des tensions dans le couple quand même.
Au 1er juillet, le congé supplémentaire de naissance de 2 mois entrera en vigueur. Alexandre et Clémence auraient aimé bénéficier d'un 3e mois, d'autant qu'inciter les pères à s'impliquer leur semble important.
Je pense que c'est indispensable que les papas prennent du temps.
Moi, j'irais même plus loin à mettre le mot obligatoire pour les pères. Il y avait un besoin, quoi.
Cette proposition partage les professionnels. Camille Kolebka est assistante périnatale.
Il y a un bon côté de se dire on œuvre aussi à faire un peu bouger les mentalités et en même temps, est-ce que c'est pas le risque d'infantiliser encore un peu plus ces jeunes parents?
Il ne faudrait pas que ces congés deviennent une solution face à la pénurie de places en crèche, prévient-elle dans la note que nous vous révélons. Ce matin, le Haut Commissariat au Plan préconise de garantir progressivement un accès à un mode de garde dès 1 an.
L'État profite-t-il de la crise énergétique pour remplir ses caisses depuis le début de la guerre au Moyen-Orient? En tout cas, la flambée des prix à la pompe a engendré 190 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires, annonce du Premier ministre hier soir. Mais Sébastien Lecornu l'assure, tout sera utilisé pour aider les Français. Une promesse jugée peu convaincante par le député insoumis et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel.
La transparence, c'est le moins que puisse faire le gouvernement, mais la question n'est pas tant la transparence, c'est surtout qu'est-ce qu'il compte faire pour enrayer cette crise, ou en tout cas en affaiblir les effets. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très très loin du compte. Il faudrait par exemple faire en sorte que le prix du pétrole baisse, et donc il faudrait un blocage des prix. Il faudrait accepter de s'attaquer aux bénéfices records qu'a encore fait Total sur ce trimestre. Tout ça, vous ne l'entendez pas le gouvernement en parler. Donc, c'est bien gentil d'être transparent, mais il vaudrait mieux pouvoir agir et agir de manière efficace.
Car le prix du baril de pétrole a de nouveau bondi hier soir après la rupture du cessez-le-feu par l'Iran. La République islamique a frappé les Émirats arabes unis pour la première fois depuis plus d'un mois.
Et la cagnotte, donc les 193 millions annoncés donc et précisés, je dirais, hier par le Premier ministre, ça vous fait réagir? Est-ce que vous saluez la transparence ou est-ce que vous voudriez que ça aille plus loin? Je vous attends au 32-16.
L'image de la soirée, elle nous vient d'Arménie, en visite officielle dans la capitale, Erevan. Emmanuel Macron, filmé, micro en main, mais ce n'était pas pour prononcer un discours, écoutez. Dans les cafés voisins, le chef de l'État qui interprète La Bohème, célèbre titre de Charles Aznavour, chanteur, et c'est à propos franco-arménien. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit aussi le Premier ministre arménien accompagner le morceau à la batterie. RMC, il est 7h34. Des habitants du Pas-de-Calais se mobilisent contre l'implantation d'un poulailler et ça fait réagir jusque dans les plus hautes sphères de l'État. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, tacle les riverains, dénonçant la caricature de l'individualisme, car Amélie Courté, à Saint-Aubin, personne ne veut voir 8800 poules s'installer.
D'un côté de la route, la maison de Philippe, de l'autre, plusieurs hectares de champs. Début avril, un panneau de permis de construire a fait son apparition.
Je suis tombé de haut parce que pour moi, c'était pas constructible en face. C'est une zone agricole.
Zone sur laquelle un agriculteur veut élever en plein air plus de 8000 volailles.
On n'est pas contre le poulailler, au contraire, c'est un poulailler de la Belle Rouge, donc des poulets de qualité. On a bien mangé des poulets, mais bon, et la zone n'est pas été bien choisie. Surtout qu'on n'a pas été prévenus.
Lui et plusieurs habitants ont distribué des tracts pour dire non au poulailler. Marie-Christine vit 5 maisons plus loin.
On se dit, mon Dieu, les odeurs, les nuisibles, les mouches, les rats, la pollution de l'air, les nuisances sonores, parce qu'il y a des camions qui viennent apporter à manger.
L'éleveur de 29 ans tente, lui, de les rassurer. Les camions, par exemple, ce ne sera que 2 à 3 passages par mois. Il est soutenu par le comité avicole des Hauts-de-France.
On a besoin de poulets. Un poulet sur deux est importé.
Philippe Desséry en est le président.
Là, on a un jeune éleveur. C'est une production locale. C'est un abattoir local. C'est un couvoir local. Tout est local.
Des poulets, notamment destinés à alimenter les cantines, les commerces des environs.
Et non, on n'en veut pas.
C'est désolant, conclut-il.
38% des étudiants admettent consommer des produits stimulants. RMC vous révèle en exclusivité ce matin un sondage mené par l'entreprise de soutien scolaire Les Sherpas. Et les étudiants, ils sont même de plus en plus nombreux à consommer carrément des médicaments. Louis Salé, il vous l'avoue, ils ont besoin de ces produits pour tenir en période d'examen.
Impossible pour Valentin d'imaginer affronter un examen sans café.
J'arrive souvent à la dernière minute, ça m'oblige donc à me coucher tard souvent. On est obligé de prendre du café le matin, ça nous maintient plus éveillés. Ça m'arrive aussi des fois de prendre des boissons énergisantes. On réfléchit plus vite, je trouve aussi, et la mémoire, elle est plus vive.
Des boissons énergisantes contre la fatigue le matin et de l'alcool, parfois le soir, pour faire retomber la pression.
Ça nous aide à réguler le stress. En tout cas, ça nous permet d'oublier nos problèmes durant quelques heures, et puis après, retour à la réalité le lendemain matin, et voilà.
Certains étudiants vont même jusqu'à se laisser séduire par des médicaments, des psychostimulants souvent prescrits aux personnes qui ont un déficit de l'attention.
Personnellement, j'en prends pas, hein, mais je sais que ça circule, quoi. Il y en a sûrement même dans notre classe qui en prennent pour que ce soit plus facile simplement les révisions.
La concentration surtout s'améliore et la substance qui a la cote, c'est la Ritaline, non sans risque pour la santé, explique l'addictologue Nicolas Tiercelin.
Les effets secondaires, c'est des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, des crises d'angoisse, et puis une forme de descente, un crash émotionnel, souvent une humeur très dépressive à l'arrêt du traitement.
Ce qui peut entraîner une forme d'addiction pour ce médicament.
Arsenal reçoit l'Atlético Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. Anglais et Espagnols se sont neutralisés, hein, un partout à l'aller. Coup d'envoi à 21h. Et demain, à la même heure, les footballeurs parisiens retrouveront l'Allianz Arena de Munich, là où ils ont soulevé leur première Ligue des Champions l'an dernier, pour donc la demi-finale retour face au Bayern.
Et puis le quintet, c'est à Saint-Cloud.
Voici le pronostic de Mathieu Zaccagni de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 14, Samor, et son outsider, le 16, Amusante.
C'était le journal de Rachel Sadodine, les 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il promet une transparence totale et de rendre public tous les 10 jours les recettes quasiment à l'euro près, les recettes fiscales du gouvernement liées à la hausse des prix du carburant. Sébastien Lecornu a donc publié hier soir un tableau avec les chiffres. L'État a récolté plus de 190 millions d'euros supplémentaires. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de l'association 40 millions d'automobilistes. Le Premier ministre qui annonce donc que ce surplus financera les aides mises en place. Est-ce que ça vous satisfait? Je vous pose la question évidemment dans un instant. Nous serons également en direct avec une économiste pour nous expliquer le mécanisme de ces surplus et vos réactions, bien sûr. N'hésitez pas au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, très belle journée sur RMC. La hausse des carburants a rapporté 193 millions d'euros supplémentaires à l'État en mars et en avril. Voilà ce qu'a expliqué hier soir le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a publié un tableau avec l'évolution précise des recettes fiscales liées au carburant. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Le Premier ministre assure que l'intégralité de ces surplus seront utilisés pour financer les aides, précisément les aides gros rouleurs, les aides qu'ils ont déjà annoncées. Vous nous dites dans un instant si c'est une bonne chose, mais je voudrais essayer de comprendre aussi le mécanisme avec vous, Anna Créti. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Si on prend tout, c'est-à-dire les pertes et les gains, est-ce que vraiment c'est un gain net de 193 millions pour l'euro, pour l'État ?
C'est une entrée fiscale parce que sur les prix à la pompe, effectivement, il y a la partie qui varie en fonction du prix du brut, mais la très grande partie de ce qu'on paye, c'est aussi un ensemble de taxes. Donc, ce qui est là en jeu, c'est une taxe particulière, c'est une accise, donc c'est une taxe fixe par litre qui change selon la variété de carburant. Et un autre mécanisme qu'on paye sur tous les biens qu'on achète, c'est-à-dire la TVA. Et la TVA est à la fois sur cette accise et sur la valeur, donc c'est 20%, hein, sur la valeur des carburants.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'à la fin, les 193 millions dont parle le Premier ministre, ce n'est pas en réalité vraiment la totalité du surplus ?
Alors, c'est d'ailleurs, il a même modifié. Hein, ben, au début avril, on pensait que cette fameuse cagnotte serait plus élevée parce que la demande a baissé. Donc tout est
le
en
volume
proportion.
D'achat.
Absolument. Donc tout est en proportion dans ces calculs. Après, tel que cette taxe est conçue, il y a une partie qui va dans les caisses de l'État et une partie qui est reversée aux collectivités territoriales. Pour avoir une idée, en 2024, cette taxe avait rapporté à l'État, à peu près directement à l'État, 16 milliards d'euros. Mais c'est de la fiscalité générale. Donc, le fait qu'elle soit dédiée à la transition écologique, c'est pas du tout automatique.
C'est pas automatique. Or là, effectivement, c'est ce qu'a promis Sébastien Lecornu, l'idée que ce surplus soit intégralement utilisé pour financer les fameuses aides. Alors attention, encore une question d'ailleurs avec vous là-dessus. Il manque quand même des sous parce que les aides du gouvernement pour les gros rouleurs et les professions impactées, elles ont été chiffrées à 380 millions d'euros. Il manque donc encore 200 millions. Donc à la fin, c'est quand même plutôt un manque à gagner.
Il faut voir. Parce que pour l'instant, c'est un peu un jeu contre la montre. D'ailleurs, par exemple, les aides aux gros rouleurs, elles ne sont pas immédiates. Il faudra, donc c'est à partir de la fin du mois, il faut faire une démarche sur directement sur Internet. Donc rien n'est automatique non plus. Donc, à fur et à mesure qu'on avance aussi, cette cagnotte fiscale augmente. Donc,
elle
il faudra
va augmenter,
voir
donc à la fin, il y aura peut-être effectivement les 380 millions. Merci d'avoir précisé tout ça avec nous, Anna Créti. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Pierre Chasseret, au fond, c'est peut-être pas mal que ce soit une sorte de jeu à somme nulle.
Non, c'est n'importe quoi. Ah. En fait, on pose la mauvaise question, donc on n'a jamais la bonne réponse. On parle du surplus de cagnotte, qui, objectivement, il faut décomposer le mois de mars et le mois d'avril. L'État a perdu de l'argent sur le mois d'avril, hein, sur la fiscalité, par rapport à ce qu'il imaginait.
Parce que le volume, effectivement, est moindre.
Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, Apolline, ce que je disais, ici, même heure, pareil. J'ai dit quoi ? J'ai dit en avril, on va perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une baisse de la consommation. Baisse de la consommation de carburant égale moins de mobilité. Moins de mobilité égale moins de croissance. Tiens, c'est bizarre. Vous étiez hier avec le gouverneur de la Banque de France qui vous a dit, il y a plus de croissance.
Effectivement que la croissance a été totalement flat, c'est-à-dire vraiment à l'arrêt aux trois premiers mois.
Et ça, Apolline, ça coûte de l'argent à l'État. Ce qui coûte de l'argent, c'est pas la baisse potentielle des taxes. Ça, ce serait réinjecté dans une économie de la croissance. Aujourd'hui, et j'écoute RMC, on a des témoignages qui s'accumulent avec des auditeurs qui nous disent « Je ne peux plus consommer ». Donc quand on ne peut plus consommer, on met la France à sac. Le calcul gouvernemental qui est fait...
On a même eu des témoignages de gens qui ne vont pas travailler ou moins travailler quand ils pouvaient se mettre en arrêt. On pense notamment à Sophie, aide-soignante. On pense à certains qui, effectivement, prennent moins de nouveaux patients ou moins de nouveaux chantiers dans le BTP.
Et je vous ai dit que c'était la mauvaise question. Je vais vous répondre maintenant pourquoi. On est braqué sur ce surplus. Mmh. Est-ce qu'il y a 190 millions, 100 millions ou 200 millions ? C'est pas la question. La question, c'est que les Français, en moyenne, mettent 2000 euros de carburant. Et que la hausse, là, de la fiscalité va faire en sorte que, finalement, ça va leur coûter peut-être 2002 ou 2003 à l'année. Mais la question ne repose pas sur le surplus. La question se pose sur le système fiscal français qui vient pomper 2000 euros de carburant par an. Il faut au plus vite abaisser la fiscalité sur la mobilité. Je vais vous poser une question toute bête. Hein. Pour le gouvernement, ça vaut combien la vie d'un Français ?
Alors, non.
Combien ça vaut?
Quand alors, vous ça, avez. Non, mais ça, alors, Pierre Chasseret, je vous arrête tout de suite, parce que cette question-là, elle pourrait être posée par les médecins quand je les reçois, par les patrons d'hôpitaux. Je veux dire, c'est une question fondamentale, mais qui se pose à tous les échelons d'État. On va pas se la poser uniquement pour le carburant.
Mais si, je vais me la poser parce que taxer la mobilité.
Là où j'accepte pas cette logique-là, Pierre Chasseret, c'est que, effectivement, dans ce cas-là, pour tout, on met une sorte de couteau sous la gorge des Français en disant ah bah, regardez, on a été obligé de faire des économies sur un nombre de lits ou quoi, et à chaque fois, on peut se poser cette question du coût de la vie des Français.
Eh bien, je
ne crois pas que ce soit parce qu'ils méprisent la vie des Français.
Mais si, c'est du mépris. Bien sûr que si. Et Apolline, je vais vous prouver que c'est du mépris. Quel produit mérite d'être taxé à 60%? Quel produit est taxé à 60%? La mobilité. Ça n'a pas de sens de fiscaliser une mobilité à hauteur de 60%. Quand vous empêchez les déplacements, après, on a les mêmes ministres qui viennent chez vous pleurer parce qu'ils sont obligés de mettre une taxe sur les petits colis. Mais pourquoi? Mais parce que ça coûte moins cher de se faire livrer un déodorant et quatre piles dans sa boîte aux lettres que de prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Il faut quand même se poser la question dans un pays qui tourne pas très rond.
Et
quand
effectivement,
même.
Ce transport, il est plutôt assuré. Effectivement, vous avez raison par ce genre de petits colis. Et on a reçu ici même à la fois, j'ai reçu le patron de Super U et le patron de Leclerc, qui tous disaient qu'effectivement, il y avait un peu moins de trajets pour pouvoir faire ses courses en une fois et pas avoir à retourner plusieurs fois au supermarché. Pour vous, c'est donc une sorte d'écran de fumée, cette annonce hier de Sébastien Lecornu?
Mais je vais même vous le prouver. Quand on annonce une aide aux soi-disant gros rouleurs, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un gros rouleur, tout dépend de combien vous gagnez quand vous avez une mère de famille.
Ce sera un chèque à environ 50 euros pour les plus modestes et qui effectivement roulent beaucoup.
Donc vous savez comme moi que ce n'est pas 50 euros. Quand on dit 50 euros pour le carburant, ça ne fait pas 50. Puisque vous prenez 50 euros, vous allez faire le plein, vous en rendez 30 en taxes. Donc on vous a donné 20 balles. On est bien d'accord. Il faut, et comment va calculer le gouvernement? Il va calculer, tous les journalistes vont reprendre en boucle. On va multiplier 50 euros par le nombre de chèques. C'est faux.
Non, ça c'est parfaitement juste. Effectivement, puisqu'il y a, comme vous le dites, non, mais ce que je veux dire, c'est que votre calcul est parfaitement juste. Si les 50 euros servent vraiment à aller refaire un plein, c'est une manière de redonner de l'argent à l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus alors? Baisser les taxes surtout?
Il faut.
Vous n'êtes pas pour bloquer les prix, hein.
Mais on peut pas bloquer un prix. C'est pas possible. Bloquer un prix, c'est démago. Tous ceux qui promettent ça aux Français savent très bien que c'est pas tenable. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut faire mieux. On peut juste rester, non pas un anarchiste, mais profondément européen, ce que je suis dans l'âme. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler nos taxes en France sur les préconisations de l'Union européenne. Ça veut dire, baisse de la TVA à 15, c'est ce que propose l'Europe. Pas en dessous. On n'a pas le droit. Donc, c'est pas possible de dire 5, on peut pas. Donc, c'est baisse à 15. Par contre, baisse des accises de 40 centimes. Bref, je peux pas vous faire le détail. J'ai fait l'addition.
Arriver au niveau européen, quoi.
Niveau qu'imposent les directives européennes, ça ferait 70 centimes aujourd'hui en moins sur un litre de carburant pour les Français. Et de toute façon, j'entends ceux qui me disent « mais ça va coûter ». Non, ça va pas coûter. D'ailleurs, regardez un peu le modèle gouvernemental qui mise tout sur l'électrique. L'électrique, c'est la France open bar qui paye pas de taxes de carburant. Donc si l'État veut vraiment aller vers un modèle 100% électrique, va quand même falloir qu'il apprenne à se passer des taxes. Sinon, ça veut dire que la petite idée qui tourne dans les têtes politiques, c'est un jour de taxer le watt au même niveau que les carburants, et ce jour-là, tout le monde sera électrocuté.
Je vous laisse votre métaphore. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, merci à vous et merci aux précisions d'Anna Créti, donc professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Il est 7h51. Cécile Duflot est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous voulez déclarer votre flamme à un produit français qui cartonne.
Oui, je veux dire vive la fraise et surtout vive la fraise française, bon pour la santé et pour tout le monde.
Vous nous le dites. Et j'ai déjà faim. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus. Mathieu Lanvert du décor d'une série culture. Et culture.
Pardon, culte, faute de frappe de ma part. Il y a des séries qu'on reconnaît à la première mesure du générique. Friends, mais c'est assez rare d'en parler en des termes aussi peu élogieux.
C'est culture aussi. Hein.
Ah ouais, c'est culture
enfin,
aussi.
C'est passé, disons, je dirais, dans les archives de la culture nationale et internationale.
Écoutez ce qu'en dit Lisa Kudrow, celle qui incarnait le personnage fantasque de Phoebe, qui chantait « Tu pues le chat », vous vous en souvenez. Friends n'était peut-être pas si chaleureux que ça. Plus de 20 ans après, elle décrit un climat de travail brutal, bien loin de l'ambiance légère à l'écran. Le tournage enregistré devant près de 400 personnes se faisait sous pression au moindre raté. Les scénaristes pouvaient lâcher des remarques humiliantes, parfois violentes, devant le public. L'actrice qui raconte aussi que les scénaristes avaient des discussions déplacées et s'amusaient en évoquant leur fantasme sexuel sur les actrices de la série. Bref, ambiance parfois toxique que Lisa Kudrow dit avoir appris à ignorer pour tenir les 10 ans, les 10 saisons de la série Friends.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h54 sur RMC et comme tous les mardis, c'est la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, la saison des fraises est ouverte officiellement. Gariguette, Plougastel, c'est la revanche de la fraise française et ça vous réjouit?
Oui, c'est la revanche de la fraise française, c'est un titre des Échos ce matin et c'est très sérieux parce qu'on parle du fruit préféré des Français. Les Français disent que leur fruit préféré, c'est la fraise et la fraise a fait l'objet d'une guerre terrible entre la France et l'Espagne. On se souvient pendant de nombreuses années des agriculteurs français qui ouvraient des camions et qui jetaient la fraise. Et puis, bah, avec le temps, maintenant, la France a en gros terrassé l'Espagne et a gagné la guerre de la fraise.
Comment ça s'est passé? Comment on a fait pour terrasser l'Espagne?
Eh bien, jusque dans les années, enfin à partir des années 80, la production française recule d'année en année, des surfaces en baisse et l'Espagne, elle, qui produit des centaines de milliers de tonnes et qui exporte massivement, 80% des fraises produites en Espagne sont exportées et beaucoup en France. Au début des années 2010, en France, plus de 2 fraises qu'on mange sont des fraises importées et majoritairement espagnoles.
Et c'est plus le cas aujourd'hui?
Non, pas du tout. Il y a eu un basculement. D'abord, les consommateurs ont évolué. 70% d'entre eux disent qu'ils préfèrent, s'ils en ont la possibilité, acheter des fraises françaises. Et ensuite, la filière a fait un choix qui est de mettre en valeur des variétés beaucoup plus qualitatives, notamment la sifflorette, mais surtout la fameuse gariguette. Et la gariguette, elle a une très belle histoire. Elle a été créée par une ingénieure agronome née en 1933, une femme française, Georgette Risser. C'est la recherche publique française. Elle crée cette fraise qui se développe et puis, en fait, il y a aussi toute une opération d'image avec des chefs. On montre que c'est meilleur de manger ces fraises-là que des grosses fraises gonflées à l'engrais et sans goût qui viennent d'Espagne. Et du coup, la gariguette explose et la fraise française explose. Et maintenant, plus de 50% des fraises vendues en pleine saison sont françaises.
Elles sont françaises, mais elles sont plus chères.
Elles sont plus chères, vous avez raison. Et pas tant que ça, finalement, parce qu'en fait, si on regarde... Si en moyenne, une famille française, ça mange 3 kilos de fraises par an. Donc sur 4 mois, c'est 3 euros de plus par mois pour de la qualité et pour soutenir l'agriculture française. Donc ça le fait.
C'est politique finalement la fraise.
Exactement, c'est très politique. On peut voter avec un bulletin de vote, mais on peut aussi voter avec une barquette en choisissant des fraises de meilleure qualité, produites en France, qui sont aussi bonnes pour la santé. Et puis, si on veut les acheter moins cher, on peut les acheter aux producteurs. Il faut savoir que les fraises ou les fruits achetés aux producteurs, ça coûte, c'est de meilleure qualité et ça coûte beaucoup moins cher. Si vous me permettez, je fais une spéciale dédicace à Marilyn qui vend des fraises à Pissos dans un chalet délicieuse qui sortent à peine du champ. Voilà. Elle m'a fait découvrir plein de fraises et plein d'autres variétés, parce qu'il y en a plein d'autres, des très bonnes. Et il n'y a rien de meilleur que les fraises. Par ailleurs, je termine, pour ceux qui hésitent encore, il y a plus de vitamine C dans les fraises que dans les oranges. Et c'est bon pour le transit, c'est bon pour le cœur. Bref, c'est même plus un bulletin de vote, c'est un slogan, manger des fraises.
Il y avait manger des pommes, et désormais avec Cécile Duflo, il y a...
Moi, c'est manger des fraises.
Manger des fraises, la voix de gauche sur RMC. Merci Cécile. Demain, ce sera la voix de droite. Louis Sarkozy, il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h à la une, premier procès pour des violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Témoignage RMC, vous l'entendrez ce matin d'une maman dont la petite fille a été victime d'un animateur. Juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, depuis ce matin, les actifs travaillent pour eux.
Et oui, on a fini de payer pour les retraités.
Les retraités?
Oui.
Vous nous le dites dans un instant. Il y aura aussi la météo, pas beaucoup de suspense, il pleut.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.